Monsieur Vivarca, merci d'avoir accepté notre invitation pour notre média Logos, un média qui a pour but, je le rappelle, de mettre en avant la parole de spécialistes universitaires sur leurs travaux de recherche, mais aussi de fournir un regard, disons, éclairé sur les choses. Pour cet entretien aujourd'hui, nous allons parler du wokisme et des nouveaux mouvements sociaux, un sujet sur lequel donc, vous avez réfléchi, travaillé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de lancer les premières questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à ceux qui nous écoutent?
Bonjour, donc je m'appelle Michel Vivarca, je suis sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je ne vais pas vous raconter ma trajectoire, sinon pour vous dire que j'ai effectivement beaucoup étudié les mouvements sociaux, les mouvements culturels, les anti-mouvements aussi, le terrorisme, la violence, le racisme, l'antisémitisme, et que j'ai passé à peu près toute l'époque du confinement et jusqu'à il y a peu, à rédiger un livre qui s'appelle « Métamorphose ou déchéance, où va la France ?» et qui est un livre qui essaie de voir comment, d'une part, les mouvements sociaux ont évolué depuis plusieurs dizaines d'années, et d'autre part, comment l'État s'est transformé et comment les évolutions des uns et de l'autre ont abouti à une situation que je trouve très, très préoccupante. Mon livre est édité aux éditions Rue de Seine. Fin de la publicité.
Permettez-vous. Comme première question, on va amorcer le sujet sur quelque chose d'assez général, une question ouverte. Ouverte, même si je vais demander, disons, quelques précisions et apporter des éléments supplémentaires pour qu'on ne s'éparpille pas trop. Mais d'abord, qu'est-ce que le wokisme? Quels sont, disons, les objectifs de lutte du wokisme? Et quand on parle d'objectifs de lutte, on peut même discuter, il me semble intéressant, de l'appartenance et de l'orientation politique, disons le périmètre également sociologique qui définit le wokisme.
Alors, je pense qu'il faut partir des États-Unis. Non pas pour dire que les choses commencent là-bas et arrivent ici dans un mouvement simple et unidimensionnel, mais pour dire que le mot vient des États-Unis. C'est un mot woke, non pas wokisme, mais woke, qui est pas, c'est pas du bon anglais, hein, c'est de l'anglais, comment dirais-je, pas argotique, mais disons un peu ordinaire, un peu populaire, et c'est plutôt de l'anglais noir, des noirs américains. Et ça vient du verbe wake up, s'éveiller. Donc être, quand on disait aux gens woke, ça voulait dire éveille-toi, sois éveillé, donc prends conscience, mobilise-toi. C'était ça l'idée au départ de ce mot qu'on trouve depuis un certain nombre d'années. Il y a une ou deux chansons qu'ils l'utilisent. Enfin, ça fait partie d'une certaine culture américaine. Et puis, depuis quelque temps maintenant, c'est un mot qui a été dénoncé aux États-Unis par les secteurs les plus conservateurs, parfois réactionnaires. Et là, on a parlé de wokisme, hein, de wokisme. Et là, c'est un mot qui a pris une charge négative. C'est brusquement tout ce qui ne va pas dans des contestations. En particulier dans les États-Unis, dans les universités américaines. Alors, ça renvoie, si vous voulez, à l'idée qu'il y a des excès, des dérapages, de l'intolérance, du politiquement correct insupportable chez un certain nombre d'activistes et que tout ça, il faut l'appeler wokisme. Ah, ça, c'est la naissance aux États-Unis. Et puis en France, personne ne s'en sert. Moi, je ne connais pas de militants, de mouvements genre cran ou autre, qui se serait dit « je vais utiliser ce vocabulaire ». C'est un vocabulaire qui a été tout de suite utilisé de manière négative, disqualifiante, et qui s'inscrit dans, si je peux jargonner un tout petit peu, dans un système sémantique, dans un ensemble de mots qui tous sont à charge pour critiquer des excès, des dérapages qui en diraient long sur ceux qui les font et ceux qui les soutiendraient ou qui les laisseraient faire. Alors, quels sont ces dérapages? Alors, quel est ce système sémantique, si vous voulez, d'abord? Premièrement, évidemment, des gens qui mettent en avant l'idée de race noire, en réalité avant tout, pour promouvoir leur émancipation. Et donc là, on pourra en reparler, effectivement, des dérapages, des choses inacceptables. Moi, j'avais à l'époque soutenu le ministre Blanquer, quand il avait été confronté aux premières manifestations visibles de ce phénomène. On pourra en reparler. Mais ça s'est étendu. Ça s'est étendu à ce que les mêmes, d'ailleurs, qui dénoncent le wokisme, critiquent sous l'appellation « cancel culture », la culture de l'annulation. Hein. Et là, alors c'est autre chose. Ce n'est pas que les gens se manifestent en se mobilisant, en s'éveillant. C'est le fait que les gens, en se mobilisant, veulent détruire, nier, sans rien construire, mais en faisant disparaître des personnages, des événements de notre mémoire visible. Je vous en donne un exemple. Tel personnage dont on ignorerait qu'il a eu un rôle dans l'esclavage, eh bien, on demande que sa statue soit déboulonnée, que son nom soit supprimé des rues ou des places ou des endroits publics, parce que ce personnage aurait été ou a été esclavagiste. C'est ce genre de choses. Donc, le cas extrême de la cancel culture, si vous voulez, c'est quand les talibans, il y a une bonne vingtaine d'années, détruisaient les statues de Bouddha taillées dans la roche à Bamiyan, en Afghanistan, des statues qui font des dizaines de mètres de haut qui appartenaient au patrimoine de l'humanité. Donc voilà, on annule, on détruit. Donc le fait de s'éveiller racialement, pour le dire comme ça, le fait donc aussi d'annuler certaines choses. Et puis en France, ça a pris un tour aigu autour de l'idée d'islamo-gauchisme. Alors là, on sort un peu du registre de la race et on dénonce l'islamo-gauchisme, point sur lequel on devrait revenir dans cette conversation, c'est-à-dire ceux qui veulent faire la promotion de l'islam, islamo, et qui seraient gauchistes. Donc plus que pas seulement de gauche ou d'une gauche bien particulière. Et donc là, on rentre dans un autre système de problèmes, dans un autre ensemble de problèmes, puisque là, évidemment, on touche à la question musulmane, à la question de l'islam en France. Et puis, on a dénoncé aussi, dans ce mouvement, si vous voulez, de critique, très conservateur, très droitier, j'y reviendrai, on a dénoncé aussi le recours à l'idée d'intersectionnalité. Donc là, c'est une critique directe des chercheurs en sciences sociales quand ils s'intéressent à ce concept. Alors, c'est quoi l'idée d'intersectionnalité ? Je vais vous le dire en termes assez simples. Le concept est plus compliqué en réalité. Mais en gros, si vous êtes femme, de couleur, handicapée, pauvre, je m'arrête là, mais vous pouvez en rajouter, eh bien, vous cumulez des injustices, des inégalités, des discriminations qui sont plus que la somme simplement, que la juxtaposition de ce que chaque problème signifie. Vous êtes victime de plus, ou vous êtes confronté à plus que la simple somme, que la simple addition de ces différents registres. Donc l'idée d'intersectionnalité, c'est donc l'idée que les problèmes se croisent, se rencontrent, et que la rencontre de ces problèmes dessine quelque chose de plus lourd encore, ou de plus compliqué que la simple juxtaposition. Donc, on s'est mis aussi à critiquer le recours à ce concept. Et puis, vous pouvez certainement ajouter encore d'autres choses. On a dénoncé les gens qui se réclament des études postcoloniales. Alors là, c'est assez simple. Nous sommes dans un monde qui s'est décolonisé pour une bonne partie, pour l'essentiel. Il n'y a plus de colonies. Mais évidemment, la colonisation a laissé des marques, des traces. Et on l'a parfois aussi mal connu, on la connaît parfois insuffisamment, on ne l'a pas assez étudié. Donc les études postcoloniales étudient ce qui est le legs, en quelque sorte, de l'époque coloniale, de la décolonisation, et aussi, bien sûr, étudient la colonisation, l'époque coloniale. En confondant d'ailleurs allègrement, dans la critique, quand les gens dénoncent les études postcoloniales, en confondant allègrement les problèmes de la société américaine et les problèmes de la société française. Les États-Unis n'ont pas été un pays qui a colonisé d'autres pays. Par contre, les États-Unis sont structurellement définis par la question de la race noire. La traite des nègres, pour parler comme on parlait à l'époque, évidemment, l'esclavage, puis la guerre de sécession, puis ce qui s'appelle les lois Jim Crow, c'est-à-dire des lois qui perpétuent le racisme malgré la victoire du Nord sur le Sud pendant la guerre de sécession. Enfin, toutes ces choses-là font qu'aux États-Unis, la question postcoloniale est d'abord et avant tout la question noire. Black American, African American, c'est l'adjectif qu'on utilise là-bas. Alors qu'en France, la question post-coloniale, c'est la question de la décolonisation, de la colonisation et d'une immigration venue des anciens pays colonisés. Plus la question des Antilles, de la Réunion, de la Guyane, qui ressemble à un mélange des deux, de la question coloniale, mais française, mais aussi la question américaine. Bref, donc ceux qui sont dans ce système de critique du woke critiquent aussi donc les post-colonial studies. Ils critiquent aussi, en mélangeant tout, les études décoloniales, comme si c'était la même chose. Donc là, il suffit d'être un tout petit peu attentif pour voir que ceux qui vous parlent de faire des études décoloniales parlent d'autre chose que ceux qui s'intéressent aux études post-coloniales. Excusez-moi de devoir être un peu précis. Les études, enfin, le thème décolonial est en réalité une sorte de carrefour entre l'étude de l'impact de la colonisation et l'étude du capitalisme. C'est-à-dire, ça prolonge un peu, comment dirais-je, une orientation intellectuelle qui a été dominée par quelqu'un qui est mort il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui s'appelait Immanuel Wallerstein, qui a été le grand inspirateur côté critique du capitalisme de ses études décoloniales. Et donc, c'est encore autre chose. Alors, on peut trouver que les études décoloniales sont parfois un peu excessives, mais elles s'intéressent avant tout au capitalisme ou à l'impérialisme. Ce n'est pas la même chose exactement que d'étudier l'impact de la colonisation dans un pays comme le nôtre. Alors, j'en oublie certainement, mais voyez la chose importante. C'est que vous avez tout un registre de préoccupations, et je ne vous ai pas encore parlé des questions de genre, mais elles rentrent aussi dans tout ça. Vous avez tout un ensemble de préoccupations qui suscitent inquiétude, parfois fureur, passion, violence verbale, excès en tout genre, du côté d'un certain nombre d'acteurs qui sont des politiques, des intellectuels, plus rarement des universitaires d'ailleurs, il n'y a pas tant que ça d'universitaires de ce côté-là, et qui sont des critiques dans lesquelles il serait intéressant de parler aussi de qui exactement sont ces acteurs, qui sont ces personnes qui dénoncent tout ce système dont je viens de vous parler, avec une particularité, je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense qu'on pourra rentrer dans plus de précision ensuite, mais avec une particularité très française. Tout ceci en France est dominé par la hantise de l'islam. Si vous retirez la hantise de l'islam, tout ce dont je viens de vous parler devient vraiment secondaire. C'est la hantise de l'islam qui est le cœur du problème. Derrière la hantise de l'islam, nous pourrions peut-être parler aussi de la question juive et de l'antisémitisme, car ces personnes-là ont une certaine approche. Et tout ceci est porté aussi par des gens qui cherchent à promouvoir un principe d'unité pour notre pays. Ils ne veulent pas qu'on traite, à mon avis, sérieusement d'un certain nombre de différences, d'un certain nombre de mouvements sociaux, d'un certain nombre de mouvements culturels, et ils ne veulent pas qu'on parle donc de ce qui fait la diversité du corps social. Et quand vous ne voulez pas parler de la diversité du corps social, vous introduisez l'image de son unité. Et à mon avis, en France, il n'y a pas 36 000 façons de parler de l'unité du corps social. Vous mettez en avant la République, vous mettez en avant la nation, vous mettez en avant éventuellement les deux, et vous parlez en plus éventuellement de la souveraineté nationale et donc de la question européenne. Voilà, en gros, si vous voulez, comment vous pouvez proposer une image unifiée du corps social en même temps que disqualifier un certain nombre d'acteurs ou d'actions qui traduisent la diversité du même corps social.
Vous dites qu'en France, les détracteurs du wokisme, qui veulent promouvoir l'unité de la nation dont vous parlez, polarisent l'attention autour de la question de l'islam. Cela a-t-il pour effet de disqualifier d'autres mouvements sociaux comme les thématiques de genre, par exemple ?
Alors, c'est le discours qu'on appelle du wokisme, enfin que ces gens-là appellent wokisme, parce que entre nous, moi je vous parle là, je suis dans un petit village de Provence, je peux vous dire que personne ne parle de wokisme. Hein. C'est vraiment un petit univers d'élite journalistique, politique, intellectuelle. C'est pas le discours des campagnes ou des quartiers ou de la rue. Hein. C'est pas comme les gens parlent bien sûr. Les gens qui disqualifient ou qui critiquent le wokisme pour en faire un cheval de bataille, parce que je pense qu'il faut critiquer certains aspects du wokisme, mais pour en faire comme ça une sorte de machine de guerre, ces gens-là sont, peuvent mettre en avant quelques exemples, qu'en général, ils vont emprunter plutôt ailleurs qu'en France, aux États-Unis ou au Canada. Alors, je vous donne un exemple de ce qui est mis en avant. Il est vrai qu'aux États-Unis, la ville devient irrespirable sur certains campus ou dans certains secteurs de certains campus parce qu'il y a des excès. Exemple d'excès, je crois que c'était au Canada, mais peu importe, si c'était aux États-Unis, ça ne change rien ce dont je vais vous parler. Une femme professeure de littérature, dans son cours, est amenée à évoquer la façon dont, dans la littérature, des gens évoquent, avec les mots de l'époque, la traite négrière. Cette femme n'était évidemment pas du genre à utiliser le mot nègre. Bon. Eh bien, une campagne wokiste se met en place. Elle n'a pas le droit d'utiliser ce mot. C'est le mot de la barbarie, c'est le mot de l'esclavage, c'est le mot de la de souffrance terrible, etc. Elle n'a pas le droit de l'utiliser. Campagne extrêmement violente, la femme est obligée de démissionner. On a cité une fois ou deux des exemples de suicide. Je vous donne un autre exemple. J'ai entendu une conférence récemment par un très bon spécialiste français, mais qui vit au Canada sur cet enjeu. Il y a eu deux pièces de théâtre aux États-Unis, au Canada, qui ont été l'objet d'une campagne, au Québec, qui ont été l'objet d'une campagne extrêmement violente de critiques. La première pièce était une pièce qui concernait des Noirs. Et la deuxième pièce de théâtre concernait des Premières Nations. Vous savez, ces gens aborigènes ou autres qui étaient là avant tout le monde, si je peux dire, et qui ont été extrêmement maltraités, mis dans des, on en a parlé récemment, dans des pensionnats où on les obligeait finalement à perdre tout rapport avec une quelconque culture. Et, enfin, ça a été des périodes terribles, terribles. Bon. La deuxième pièce était co-préparée, enfin co-montée, je crois, avec Ariane Mnouchkine. On ne peut pas soupçonner d'être fasciste ou réactionnaire. Donc, si vous voulez, dans les deux cas critiques, vous n'avez pas le droit de donner à voir les choses de cette manière-là, sans acteurs noirs, on peut dire les gens qui critiquaient la première pièce, ou des blancs, en gros, avaient le rôle de noirs, sans nous prendre en considération, etc. Bon, eh bien, ça donne des campagnes extrêmement violentes, et il y en a qui parfois exagèrent. Donc, c'est ça qui est dénoncé. Et donc, j'en arrive à votre question, je crois, m'arrêter si je réponds à côté. Mais il y a d'un côté des choses excessives, des choses inacceptables. Mais est-ce une raison pour dire que finalement tout ça rend inutile de parler du mouvement noir ou d'un mouvement éventuel de native aux États-Unis, au Canada? Est-ce que cela disqualifie l'action des femmes? Ou l'action de ceux qui soutiennent l'action des femmes. Est-ce que ça disqualifie le travail universitaire sur un certain nombre de grands problèmes? Alors, il faudrait ne pas étudier ce qui s'est passé, l'impact de la colonisation. On n'aurait pas le droit de poser la question de savoir s'il n'y a pas un lien entre les questions coloniales et les questions économiques. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas acceptable. Mais, pour vous répondre, il y a dans notre société, dans toutes les sociétés, un très grand nombre de contestations qui peuvent avoir, à un moment ou l'autre, des gens qui dérapent. Il n'empêche qu'il ne faut pas jeter, je vais vous le dire comme ça, le bébé avec l'eau du bain. Alors, je ne suis peut-être pas très clair. Donc, si vous voulez, je vais faire une comparaison historique, tout le monde va comprendre, si vous en êtes d'accord.
Oui, allez-y.
Au début, à la naissance du mouvement ouvrier, donc au début du 19e siècle, au Royaume-Uni, essentiellement, il y a des gens qui sont, qu'on appellera des ludites, qui sont des gens qui cassent les machines. Ce n'est pas spécialement mollasson comme attitude. Quelques dizaines d'années plus tard, en France, la naissance du syndicalisme sera faite de gens qui se demandent s'il ne faut pas saboter, s'il ne faut pas être violent. Vous aurez des gens qui théoriseront d'ailleurs tout ça. Quelqu'un comme Georges Sorel a théorisé l'idée que la violence ouvrière est saine. C'est ce qu'on a appelé l'anarcho-syndicalisme, syndicalisme d'action directe, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Bon, c'est pas détendre non plus, c'est la naissance d'un mouvement. Alors moi je suis pas du tout du côté des excès, de la violence, ou simplement même des appels à la violence, mais je vois que ces excès en réalité sont la face négative, sombre d'un mouvement qui sont les de grands mouvements. Après tout, ça va donner le mouvement syndical, ça va donner jusqu'à presque aujourd'hui les principaux conflits de la société française. Et il y aura moins de violence d'ailleurs après la phase initiale. Alors peut-être qu'on n'est pas dans une phase initiale. Moi, je crois qu'on est dans une phase initiale de ces contestations et que les choses évolueront. Mais que, qu'il me semble moi, important de bien sûr refuser les excès, bien sûr, les critiquer, mais ne pas sous-estimer l'importance de ce qui est en jeu, y compris dans ses excès, mais pas seulement. Voilà, c'est ça la question.
Selon vous, la pluralité des mouvements risque-t-elle de rendre, in fine, inaudibles les revendications avancées ? Un mouvement plus vindicatif pourrait-il prendre le dessus sur un autre, par exemple ?
Deux questions dans ce que vous dites. La première question, c'est celle de l'ensemble de ces mouvements, de ces contestations, de ces actions. Est-ce que tout ça n'est pas appelé à péricliter ou à aller dans des directions inquiétantes ou à éclater, etc. Alors qu'on pourrait plutôt souhaiter une sorte de convergence ou en tout cas de capacité de toutes ces luttes, de toutes ces mobilisations à au moins à s'entendre sur certains enjeux ou à se comprendre. C'est la première chose. Et la deuxième chose que vous évoquez, c'est le fait que chacune de ces mobilisations en elle-même est susceptible d'être emportée comme ça dans des directions étranges ou inacceptables. Alors là, si vous voulez, je vous répondrai, c'est l'histoire qui tranchera. Moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire du tout ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que l'exemple du mouvement ouvrier nous aide beaucoup à réfléchir. Le mouvement ouvrier, je vous ai dit au début, des gens cassent les machines. Mais il y a aussi des gens qui disent qu'il faut faire grève. Mais il y a aussi des gens qui disent on va faire des mutuelles. Et on va se serrer les coudes économiquement ensemble. Et puis, il y a aussi des gens qui disent, non, on va faire des... Ils ne le disent pas comme ça, mais on va faire des communautés. On va construire des utopies. Bon. Et puis, il y a des gens qui disent, il faut mettre en place des formes de coopération. Enfin, bref, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, un beau jour, pour la France, très tardivement, vous savez que le premier grand syndicat français, c'est, je crois, 1893 ou 1894. C'est très tard par rapport à l'histoire de l'industrie. Mais un beau jour, il se passe deux choses. D'une part, se crée le grand syndicat, la CGT, et d'autre part, se créent les premières bourses du travail. Les syndicats, c'est vertical. Je rassemble tous les ouvriers par profession, ce genre de choses. Les bourses du travail, c'est horizontal. Je rassemble les gens là où ils habitent. Vous habitez à Clermont-Ferrand, je crée une bourse du travail à Clermont-Ferrand. Pour les gens de bon. Et tout, évidemment, les bourses peuvent ensuite se fédérer, se regrouper, c'est encore autre chose. Eh bien, je voudrais vous dire ceci. Je pense que chacune des luttes dont nous parlons est appelée d'une part à être faite de choses très différentes. Il peut y avoir dans le mouvement contre les discriminations raciales des gens très différents, des gens qui pensent différemment, qui agissent différemment. Peut-être que jamais ça ne s'unifiera. Peut-être qu'il y aura des moments où ça se rapprochera et des moments où ça divergera. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y avait des réformistes et des révolutionnaires. C'était parfois très violent, très tendu, disons, entre eux. Bon. Donc, chacune de ces luttes aura son histoire, sa diversité, sa variété de signification, sa diversité aussi de contre-projets. Et ensuite, l'ensemble de ces luttes, peut-être, donnera lieu à des formes de convergence, par exemple, politique. Je ne sais pas. Donc, il faut garder l'idée que tout ça est possible et tout ça sera ce que font les acteurs avec éventuellement des intellectuels dont le métier est d'aider à penser ces questions. Et donc, à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est à une sorte d'éparpillement, d'éclatement, avec des dérives, des excès, une archipélisation, pour parler comme Jérôme Fauré. Hein. Les luttes aussi, pas simplement la société, les luttes aussi s'archipélisent en quelque sorte. Est-ce que ces archipels, un jour, par suite de mouvements étranges, vont donner un continent ? Je ne le sais pas. Et si ça donne un continent, est-ce qu'il y aura, ce sera juste une grande plaine, ou est-ce qu'il y aura des montagnes, des lacs, des déserts ? Je ne le sais pas, bien sûr. Mais voilà, il faut laisser ouverte la possibilité à l'histoire de se faire. Et par conséquent, tout en critiquant les aspects les plus dingues, les plus déconnants, disons-le comme ça, tout en les critiquant, tout en les refusant, s'intéresser, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses, à ce que ces luttes peuvent commencer peut-être à construire pour demain.
Le caractère ponctuel ou non d'une lutte entre-t-il en jeu pour la considérer comme wokiste ou non? Par exemple, une lutte pour la sauvegarde des emplois, comme les hauts fourneaux de Florange, à une période donnée, s'inscrit-elle de la même manière que la lutte pour l'égalité homme-femme, qui est une question plus générale et ouverte dans le temps?
Alors là, il faut faire de la sociologie. Donc je vais prêcher pour ma paroisse. Il faut aller y voir et écouter, entendre, tester les hypothèses avec les acteurs pour savoir exactement quelles sont les significations que porte leur action. Une lutte, c'est, si vous voulez, je vais faire une autre comparaison. Imaginez que vous cherchez de l'or, c'est-à-dire, dans une lutte, ce qu'elle a de plus noble, ce qu'elle met en cause de plus important, le contre-projet le plus beau qu'elle puisse porter d'un autre type de société, d'autres types de rapports entre les humains, etc. Bon, mais vous savez aussi que dans cette... vous cherchez de l'or. Mais ça, c'est abstrait. En général, vous irez dans un endroit où il y a de la terre, des minerais, vous les ramasserez parce que vous pensez qu'il y a peut-être de l'or. Et puis ensuite, soit mécaniquement, soit chimiquement, enfin vous utiliserez des procédés qui vous permettront de décomposer analytiquement votre minerai. Et vous verrez qu'il y a tant pour mille d'or, mais aussi toutes sortes d'autres choses, peu importe lesquelles d'ailleurs. Eh bien, une lutte, c'est pareil. Dans une lutte, vous avez toutes sortes de significations. Les gens de Florange dont vous parlez, pour prendre un exemple historique très, très lourd et très important, ces gens-là, peut-être qu'ils veulent d'abord, ce qui est assez vraisemblable, sauver l'emploi. Mais peut-être que parmi eux, ils ont aussi le rêve d'un autre type de société. Peut-être aussi qu'ils voudraient des lois différentes. Peut-être qu'ils voudraient des mesures de protection particulières, etc. Et donc, une lutte comme celle-là, la lutte de Florange, elle est intéressante pour le sociologue, elle est importante, et il va essayer de la décomposer pour voir quels sont les ingrédients, en quelque sorte, à qui la compose, et il va essayer peut-être aussi de se dire qu'est-ce que cette lutte présente de plus important, sociologiquement. Où est l'or? Où est l'or et où sont les éléments sans aucun intérêt? Et puis, il trouvera peut-être aussi des choses intéressantes. Il y aura peut-être un peu, je dis n'importe quoi, d'argent, de platine, et peut-être un ou deux diamants qui se baladeront là-dedans, etc. Que sais-je. Bon. Donc, le sociologue, lui, va, décomposer cette lutte analytiquement et peut-être aussi essayer de voir comment les choses se hiérarchisent, comment les choses ont une plus ou moins grande importance du point de vue des significations mises en avant. Eh bien, voilà. Et donc, moi, je ne peux pas vous répondre. Mais il est évident que dans les mouvements de femmes, il y a des dimensions de la plus haute importance sur les rapports entre êtres humains, évidemment. Mais il y a aussi des revendications plus limitées, évidemment. Si on vous dit le féminisme va faire en sorte qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, c'est certainement pas négligeable. Enfin, une fois qu'on a réglé ça, on est loin d'avoir tout réglé. Si je vous dis le féminisme va veiller à ce que cessent complètement les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, vous dites déjà autre chose, c'est pas la même chose. Et puis si vous dites le féminisme veut complètement mettre fin aux violences subies par les femmes, au harcèlement, etc., vous dites encore autre chose. Tout ça est important, et peut-être que tout ça ne peut pas être hiérarchisé. Bon, mais peut-être aussi que le féminisme peut dire non pas simplement nous dénonçons, nous critiquons, nous voulons obtenir ceci, cela, mais on peut vouloir dire aussi, nous voulons construire d'autres rapports entre les hommes et les femmes. C'est encore autre chose.
Donc tout mouvement social peut être wokiste?
Mais oubliez ce mot wokiste si vous me donnez un... C'est pas un bon mot. C'est, d'abord, au passage, ces gens qui critiquent ce qu'ils appellent le wokisme critiquent le fait qu'ils seraient importés des États-Unis. Je vous ai dit tout à l'heure que la société américaine a une histoire très différente. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un mot américain, ils ne donnent même pas la peine de trouver une traduction en français. Donnez-moi une traduction en français de wokisme. Je serais déjà très content. Ils ne le font pas. Donc vous comprenez? Je vais vous dire, le mot wokisme, c'est un... Comment dirais-je? C'est quelque chose que vous brandissez, c'est un épouvantail que vous brandissez, pas vous bien sûr, mais qui est brandi par eux, qui veulent en réalité non seulement que cessent certaines dérives ou certains excès, là ils ont raison, mais qui veulent en réalité, me semble-t-il, imposer une conception qui est la leur de la République, de la nation, de la souveraineté, et parfois aussi qui veulent contrôler la vie intellectuelle. Et là, on rentre dans une autre discussion que j'aimerais qu'on puisse avoir sur la façon dont se met en place cette vie intellectuelle.
Si je peux me permettre, pour revenir sur un point que vous avez abordé au début, et notamment le terme d'unicité. Et vous avez parlé d'unicité, vous avez parlé de la genèse américaine sur le wokisme, et notamment ce terme, on l'avait entendu de la bouche de Martin Luther King, qui avait dit « stay woke », « stay woke » pour dire aux personnes de rester éveillées. Mais j'aimerais, disons, discuter du tournant qu'on a pu constater sur le wokisme, à savoir, quand on parle du droit des femmes à l'époque, remontant à l'époque de Martin Luther King, hein, du droit des femmes, du droit des personnes, alors pas que des personnes noires, parce que ça concernait également les communautés asiatiques, des personnes, disons, d'origine étrangère et de couleur non blanche, on avait, en tout cas, ce sentiment à l'époque, c'était... On refusait, dans les mouvements de lutte, on refusait de mettre en avant la particularité. C'est-à-dire que ces mouvements-là disaient « ne me considérez pas comme femme, considérez-moi comme une personne, jugez-moi en tant que personne et non pas en tant que femme ». Sur les personnes de couleur, on disait « ne me jugez pas en tant qu'homme noir ou femme noire », on disait « jugez-moi en tant que personne », une nouvelle fois. On cherchait à extraire ou retirer, disons, ce particularisme. Qui a créé et de manière structurante à l'échelle du système, a organisé la discrimination. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai quand on parle du wokisme, c'est qu'on a renversé cette chose-là et on a pris ce qu'il y a comme particularité et on l'a au contraire revendiqué. C'est-à-dire... Je ne suis pas une personne. Moi, par exemple, pour ma part, on ne va pas m'identifier comme une personne avant tout. On va m'identifier en tant qu'homme ou en tant que blanc. Et à l'inverse, une personne qui sera une femme noire, on va l'identifier ainsi. On ne va plus dire c'est une personne, on va dire c'est une femme noire. Et là, on est donc à l'inverse de ce côté d'unicité. On est dans une mise en avant du particularisme. Et la question que j'ai, c'est à travers ces mouvements, est-ce qu'on n'est pas quelque part dans un processus qui vise à entretenir ce pourquoi le combat, disons, a été créé à l'origine ?
Alors, vous avez mille fois raison, et vous mettez le doigt sur, je crois, les choses les plus importantes qui soient dans ces questions-là. Et c'est pour ça que ce vocabulaire wokisme me semble totalement inadapté. Alors, je vais d'abord être concret pour que l'on comprenne bien ce dont il s'agit. Lorsque des gens vous disent on me traite de manière discriminante, on me traite mal, je suis victime d'injustice raciale, et on dit que je suis noir. Et lorsque ces gens disent, eh ben oui, je vais être noir, je suis noir. Et vous dites que je suis de race noire, eh ben oui, je suis de race noire. Et je vais me réunir, je vais discuter uniquement avec des gens qui sont discriminés comme moi, et nous allons mieux préciser ce que c'est que d'être racisé ou racialisé. Et nous allons le préciser comme noir. Et ensuite, nous sortirons de nos réunions, de nos réflexions, et nous entrerons dans des logiques où, à partir de notre particularisme racial auto-intégré, en quelque sorte, je définirai les autres de la même manière que j'estime moi avoir été défini. Donc, je dirais, lui, il est blanc. Si vous posez la question en termes de genre, vous direz, lui, il est mâle. Si vous la définissez en termes sociaux, vous direz, lui, il est dominant. Je peux le dire, moi, puisque j'ai vécu personnellement une situation où mon séminaire a été envahi par des contestataires il y a 2-3 ans, et une jeune femme de la bonne société suisse, bien blanche, m'a traité de mâle dominant blanc. C'était la première fois que j'étais confronté à ce genre de choses, donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, bien sûr. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour vous dire, vous avez mille fois raison, il existe des tendances au sein des groupes ou parmi des personnes qui sont du mauvais côté de ces rapports de domination, d'exclusion, de discrimination, etc., qui, de ce côté-là, intériorisent les catégories du dominant, se les approprient, les renversent, les retourne et fabrique quelque chose qui peut conduire, je vais le dire maintenant brutalement, à la guerre des races, si on parle en termes raciaux, à la guerre des genres, si on parle en termes de genre, et à des logiques, et maintenant c'est le mot qu'on n'a pas encore vraiment utilisé, dans lesquelles, au lieu de penser en termes d'accès à l'universel, on promeut des particularismes qui ne peuvent que s'exclure au bout d'un moment les uns des autres. C'est ça le problème que vous formulez.
Et qui en plus s'auto-entretiennent.
Évidemment. Après, bon. Alors, la question est de savoir, il y a plusieurs questions. Premièrement, il y a des questions, comment dirais-je, de type philosophique, ou philosophie politique. Est-ce que c'est acceptable ou non ? Moi, je pense que tout ce qui détruit les valeurs universelles, nous sommes tous des humains, est très dangereux, premièrement. Mais je pense aussi que tout ce qui met la poussière sous le tapis sans regarder ce dont il s'agit est non moins dangereux. Il y a des problèmes, il faut les affronter. Et je ferai partie de ceux qui vous diront « Ok, vous avez le sentiment d'appartenir à un groupe racisé, racialisé, vous voulez discuter entre vous. Pourquoi pas ? Ça ne me choque pas, mais à une condition. C'est que quand vous sortez de la discussion, vous reconnaissez que votre combat doit être universel et pas seulement particulier. Vous acceptez que moi qui ne suis pas dans votre groupe, je participe à votre lutte. Et vous participez et vous acceptez l'idée que ce qui nous rapproche, c'est le refus de la discrimination, le refus de l'injustice, le refus de l'exclusion, etc. Autrement dit, ça ne me gêne pas qu'à certains moments, les gens réfléchissent à partir d'une expérience partagée, peut-être même avec quelque excès dans la réflexion, mais à la condition que ça ne débouche pas sur des dérapages, des dérives, où il n'y a plus qu'un particularisme qui va s'opposer à d'autres particularismes. Alors, ça c'est, si vous voulez, la position de type philosophie politique que j'essaye de formuler, c'est un peu grossier comme formulation, mais autrement dit, plutôt que d'opposer l'universel et le particulier, et de demander au nom des valeurs universelles qu'on ne parle pas du particulier. Je suis du côté de ceux qui disent, oui, il faut parler du particulier, et il faut arrimer le particulier à l'universel. J'espère le dire à peu près clairement. Ça, c'est un aspect du problème. Le deuxième aspect, il est non plus de philosophie politique, mais beaucoup plus historique. Quel est le poids de ces choses dont nous parlons, de ces dérives ? Alors, c'est là où ça devient en France assez délirant. Parce que, oui, il peut y avoir des dérives. Après tout, le djihadisme, c'est une sorte de dérive extrême. Bon, mais, c'est évidemment inacceptable, bien sûr. Bon, après tout, oui, il existe des groupes extrêmes qui vont prôner ce genre de séparatisme, pour utiliser le vocabulaire du pouvoir actuel. Bien sûr, bien sûr. Mais, enfin, c'est quand même pas la grande majorité de ceux qui sont concernés par ces questions. Je vous parle même pas de ceux qui ne le sont pas. Hein. Mais quand même, moi, vous savez, si je mets bout à bout tout ce que je vois dans l'université qui s'intéresse à des thèmes qui sont ceux qui peuvent être liés à ces enjeux, mais c'est peanuts, c'est rien du tout. Et d'ailleurs, les gens qui critiquent le wokisme, ils n'ont pas beaucoup de choses très concrètes à mettre en avant. Et quand ils vont chercher des exemples, ils vont les chercher au Canada et aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Vous ne pouvez pas, vous, me citer de très nombreux cas. C'est toujours les mêmes exemples qui nous sont donnés. L'interdiction d'une pièce de théâtre, d'Eschyle, des trucs qui se sont passés à Sciences Po, qui sont d'ailleurs… Et en plus, quand on commence à regarder les exemples d'intolérance, on s'aperçoit qu'ils peuvent venir d'ailleurs que de ces groupes dont on est en train de parler. Donc, il faut aussi regarder le poids concret, historique de ce dont il est question. Et donc, on arrive à un troisième problème. Vous m'arrêtez si je m'éloigne de vos préoccupations. On arrive à un troisième problème qui est, qu'est-ce que tout ça signifie du point de vue de la vie intellectuelle et universitaire, mais pas seulement, dans notre pays. Et moi, je voudrais vous dire mon sentiment très général. Je pense que ce qui dénonce le wokisme à longueur de temps, qui créent un observatoire du décolonialisme, par exemple. Ces gens-là, en réalité, fonctionnent de telle sorte qu'ils alimentent l'idée qu'entre eux et les extrêmes wokistes, soi-disant extrêmes wokistes, il n'y a plus rien. Ce sont des gens qui vous disent l'espace du débat intellectuel, du débat public, du débat politique, est telle qu'il faut choisir, je vais vous le dire brutalement, ou bien vous êtes islamophobe, ou bien vous êtes islamo-gauchiste. Et entre les deux, il n'y a rien. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois que des gens comme moi, et je ne suis pas seul, mais j'ai été moi tout à fait victime de ces affaires-là, au lieu d'accepter l'idée qu'il y a un espace de débat entre les extrêmes, on me pousse comme si j'étais d'un côté extrême. Et on me traite de mâle dominant blanc et d'islamo-gauchiste. Bon, on peut discuter de tout ça, bien sûr, je ne suis certainement pas parfait. Mais enfin, me traiter d'islamo-gauchiste, c'était ridicule. Bon, et c'est ce qui m'a été reproché. Bon, et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'on tue le débat d'idées, et donc le débat politique, en disant il n'est de choix qu'entre les extrêmes. C'est comme je vous dis, c'est comme si je vous disais il n'est de choix qu'entre Zemmour et les indigènes de la République, pour simplifier. Bon, il y a peut-être quand même entre les deux des gens qui ont d'autres choses à dire que ce que dit Zemmour, ce que disent les indigènes de la République.
Mais vous avez raison de le dire, parce qu'on dirait que ça n'existe pas. Parce que quand on parle de ce sujet, j'ai l'impression que si on pose la question à une personne, êtes-vous woke ou non ? Alors, je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais si on réfléchit à ce sujet, c'est soit on est dans la mouvance idéologique du wokisme, ou alors on est conservateur. Et il y a un manque, du coup, de champ des possibles, et du coup, une fermeture du débat, c'est ce que vous dites quelque part, c'est que sur le plan intellectuel, on refuse de penser le sujet. Et chacun va quelque part lancer à la figure de l'autre le radicalisme que peut représenter l'opposition d'idées. Par exemple, les mouvements woke peuvent balancer à la figure d'une personne qui se dirait « Non, mais je ne souscris pas à la totalité de vos actions », à dire que cette personne est conservatrice, est contre le droit des femmes, est contre le droit des minorités, etc. etc. Et à l'inverse, une personne pourrait dire « Vous êtes pour un progressisme qui conduit à une sorte de nihilisme social, à une déstructuration totale du système, et donc, pour employer un terme d'anarchie, mais anarchie au sens péjoratif du terme, non pas au sens politique, disons, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation où la nuance n'existe plus.
Écoutez, vous dites exactement ce que je pense. Donc, moi, je suis à 100% d'accord. Et je crois qu'une catastrophe actuelle, c'est cette destruction de l'espace du débat. Parce que c'est une destruction. Si je vous insulte parce que vous êtes au plus loin de moi et que vous m'insultez parce que je suis au plus loin de vous, les gens qui écoutent ça se détournent ou prennent parti. S'ils se détournent, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat. Et s'ils prennent parti, ça veut dire qu'il n'y a non pas de débat, mais pugilat ou presque. Donc, si, de toute façon, on est perdant. Et donc, je trouve que c'est très grave. Et je trouve que c'est d'autant plus grave que nous sommes dans une période historique, si je prends la France, où il n'y a pas que la vie intellectuelle qui perd ses médiations, qui perd ses espaces intermédiaires, où justement tout n'est pas tout blanc ou tout noir, tout d'un côté ou tout de l'autre. Je constate que de façon plus générale, nous sommes dans une période historique où les corps intermédiaires sont affaiblis. Je fais partie des gens qui trouvent dramatique que la CFDT soit si peu écoutée et si méprisée d'une certaine façon par le pouvoir politique actuel. Je fais partie des gens qui sont quand même effarés de voir à quel point le débat parlementaire est sans intérêt, puisque les parlementaires dominants font exactement ce qui est attendu d'eux par le pouvoir, au bout du compte. Je suis atterré de voir qu'un certain nombre d'institutions sont disqualifiées, ignorées, ou moi je fais partie des gens qui ont soutenu la création de quelque chose pour se substituer à la destruction de l'observatoire de la laïcité. Il existait un observatoire de la laïcité, le pouvoir a dit on le supprime, donc j'ai fait partie de ceux qui ont dit on va créer une association, puisque ce qui avait été créé par le haut à l'époque de François Hollande est supprimé, on va créer une association qui va faire remonter ces choses par le bas, sous forme associative. Et donc on a créé la vigie de la laïcité. Voilà, je pense que nous sommes dans une phase où les médiations concrètes ou intellectuelles sont affaiblies, et où il faut absolument refuser cette vision, cette construction dichotomique, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui connaissent un peu la philosophie politique, en particulier allemande, les gens deviennent schmittiens. Carl Schmitt, c'est un philosophe nazi d'ailleurs, mais une personnalité intellectuelle de premier ordre, par ailleurs, qui a dit il faut réfléchir en termes amis et ennemis. Et bien voilà, ce que construisent les gens qui vont aux extrêmes, c'est un monde où si vous n'êtes pas mon ami, vous êtes mon ennemi. Et où il n'y a rien qui permette de réfléchir autrement. Donc, je pense même que nous n'avons pas intérêt à utiliser le mot de wokisme, parce que c'est un mot polémique. Hein, et moi j'aimerais qu'on me donne un autre mot. C'est pas à moi de l'inventer, moi je ne l'utilise pas. Oui, mais j'aimerais que, voilà, parce que sinon, dès que je vous dis, vous vous rendez compte que on peut vous demander, êtes-vous wokiste ou non? Où va-t-on? S'il faut se définir publiquement comme étant ou non. Et puis demain il y aura un sondage qui dira, je dis n'importe quoi, bien sûr, 43% de la population est wokiste et les autres, bon, et puis il y en a qui ne savent pas. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui diront, je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte, s'il faut dire, je suis wokiste ou anti-wokiste, où allons-nous? C'est extrêmement malsain. Et donc, je suis, si vous voulez, du côté de ceux qui voudraient que l'on retrouve le sens du débat. Mais c'est difficile. Quand on se fait insulter et quand on se fait pousser, quand des gens vous disent, non, tu ne veux pas débattre, tu es du mauvais côté. Et on vous pousse comme ça à l'écart.
Et qu'est-ce qui, selon vous, a conduit à ce qu'on en arrive à cette situation vraiment de bipolarisation, tu es pour nous ou tu es contre nous? Est-ce que c'est un processus qui s'est fait dans le temps ou est-ce que c'est inné finalement à un mouvement social, c'est-à-dire qu'un mouvement social se construit, on va dire, par opposition à une domination, et donc cette opposition crée de fait un bipartisme, c'est-à-dire un camp contre un autre, ou est-ce que il y avait possibilité à la base d'un mouvement social, d'être un peu plus dans le dialogue, et cela s'est détérioré progressivement. Comment vous diriez que ça s'est passé
Là, pour la France, hein, j'introduirai une hypothèse.
Oui, bien sûr.
J'introduirai une hypothèse historique que je vais vous présenter de façon un peu simpliste, mais au moins, je crois qu'elle permet de réfléchir. On est sorti d'un type de société et on est en train d'entrer dans un autre type de société. Et moi, je pense que le type de société dont nous sommes sortis, c'était la société industrielle, avec son grand conflit qui opposait le mouvement ouvrier et les maîtres du travail, pour le dire comme ça, et qui donnait sens à beaucoup d'autres choses. Il y avait des gens qui se sentaient du côté du mouvement ouvrier parce qu'ils étaient dans l'éducation nationale, parce qu'ils étaient, je ne sais pas quoi, membres d'un mouvement de consommateurs, d'une association familiale, etc., mais qui ramenaient le sens de ce qu'ils faisaient à ce conflit. Bon, c'est fini. On en est orphelin, mais c'est comme ça. C'est fini. Et nous entrons dans un autre type de société où demain, eh ben, il y aura peut-être, sous des formes qui sont évidemment totalement différentes, l'équivalent pour ce nouveau type de société de ce qu'a été le mouvement ouvrier pour la société industrielle. Et donc nous sommes dans cette période de creux, si vous voulez, où le vieux mouvement n'en finit pas de disparaître, avec des moments où ce qui reste de capacité d'action devient plutôt défensif, voire corporatiste. Regardez les mobilisations sur les retraites, par exemple. Mais il y a encore des beaux restes, si je peux dire, de ce qu'a été le mouvement ouvrier. Mais on sait très bien, on voit très bien que ce sont des combats d'hier, plutôt, pour défendre ce qui a été des acquis lors d'une autre époque. Et puis on voit aussi émerger, comme ça, des nouvelles contestations qui nous indiquent qu'on rentre dans un nouveau monde. Moi, j'ai été très frappé que pendant la pandémie, quand on ne pouvait pas sortir, quand il était vraiment très difficile de dégager du confinement, des gens aient réussi à se mobiliser sur le climat. Des gens aient réussi à se mobiliser en tant que femmes. Il y a eu des mobilisations. Que des gens aient réussi à se mobiliser pour protester contre le racisme. Donc, environnement, genre, femme, etc. Orientation sexuelle, disons aussi. Tout ce qui touche à l'éthique, à la question de ma subjectivité, de mon rapport à mon propre corps, à mon intégrité physique, etc. Tout ça, si vous voulez, me semble-t-il, c'est les prémices des mouvements sociaux et culturels qui vont nous occuper pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà ma réponse. Et donc, je pense que quand on sort d'un type de société et qu'on rentre dans un autre type de société, c'est pas, vous comprenez, il n'y a pas une porte qui s'ouvre, le vieux mouvement qui sort tranquillement, avec ses drapeaux et ses organisations, et puis les nouveaux mouvements qui, eux, rentrent par l'autre porte et qui s'installent non moins tranquillement et paisiblement. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué, et puis il y a des choses qui sont qui sont d'une autre nature. Tout ne se ramène pas à ça, bien sûr. Mais pour moi, c'est ça. Et donc, on est dans ce moment de l'entre-deux. Pourquoi est-ce que aujourd'hui le système politique est tellement fonctionne si mal? Pourquoi il n'y a pas de gauche ou si peu? Pourquoi il n'y a pas de droite ou si peu? Parce que c'était plutôt des formes politiques héritées de la période antérieure. Après, on peut critiquer le personnel politique, on peut dire beaucoup de... Mais voilà. Et donc, on est dans ce moment où on change de monde, on change de type de société, et donc, on est dans le creux. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrais les choses. Voilà le genre d'hypothèse que je proposerais pour commencer à réfléchir, ce qui permet d'ailleurs de commencer à distinguer les significations. Dans une lutte, Florence par exemple, peut-être qu'à Florence, il y avait peut-être aussi des gens qui disaient « moi je voudrais qu'on produise autrement, je crois que c'était de l'acier, je voudrais qu'on travaille autrement, de manière plus respectueuse de l'environnement, et qu'on invente peut-être d'autres produits à partir de ce sur quoi nous travaillons, enfin, qui pourraient penser un peu environnement, écologie et tout ça. » Bon, bah, c'est encore une autre signification, donc les choses peuvent se mêler. Et puis il y a aussi des mobilisations qui n'ont rien à voir avec tout ça. Des gens qui disent simplement, moi je ne veux pas faire les frais du changement, moi je ne veux pas faire les frais de la mondialisation. Voilà, les gilets jaunes, ils ne sont ni l'ancien monde, ils ne sont pas syndicalistes, ils ne sont pas classe ouvrière, ils ne vous parlent pas des rapports de production, de l'usine, pas du tout. Mais ils ne sont pas non plus le nouveau monde, ils ne vous parlent pas égalité homme-femme, environnement, climat. Ils vous disent, moi je veux pouvoir vivre, je veux pouvoir... finir le mois à peu près, et je veux pouvoir avoir accès à la mobilité, donc ne pas payer l'essence à des prix exorbitants. Bon, c'est encore autre chose. Oui, mais je peux avec le genre d'hypothèse que je vous propose, je peux essayer de commencer à réfléchir. Voilà, à réfléchir. Et c'est donc l'idée d'un moment de creux entre deux types de sociétés. Mais peut-être qu'on rentrera jamais vraiment dans la nouvelle société, ou que d'autres pays le feront. Vous savez, si je peux prendre un exemple historique. Quand on est rentré dans la modernité, après la Renaissance, enfin cette époque-là, il y a des pays qui ont parfaitement réussi, le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, disons, les Pays-Bas, puis il y a des pays qui ont complètement loupé le coche, l'Espagne. L'Espagne a loupé le coche. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui fera ce mouvement.
J'aimerais revenir sur des termes que vous avez employés, notamment quand vous parlez de poids concret des préoccupations. Quand on essaye de résumer l'ensemble des mouvements dits woke, on trouve l'ensemble des mouvements sociétaux de défense des minorités, droits des femmes, discrimination faite aux personnes noires, etc., etc. Est-ce que vous pensez, et là je me réfère à Jean-Claude Michéa, que l'on trouve aujourd'hui une alliance objective entre le libéralisme de gauche et le libéralisme de droite? Le libéralisme de gauche, avec les mouvements qui, disons, tendent vers un progressisme des idées, des mœurs, et une alliance, d'un autre côté, avec le libéralisme de droite, qui renforce justement les intérêts du capital, et qui se servirait justement de ce libéralisme de gauche pour perdurer. Je vais prendre deux exemples qui m'ont marqué. D'abord, lors de la dernière Coupe du Monde féminine, on a cherché à promouvoir le football féminin au nom du droit légitime, droits des femmes et plus largement du progrès. On est là donc dans ce qu'on pourrait qualifier de libéralisme de gauche, un mouvement et une volonté que le libéralisme de droite s'est justement accaparé et apporté une parfaite réponse et coordination avec la chaîne TF1 qui s'est activée à diffuser l'ensemble des matchs, leur permettant d'enregistrer des audiences records et donc un gain économique publicitaire absolument énorme. L'autre exemple que je vais donner, c'est, et là je vais parler d'une personne, c'est Assa Traoré, qui est la porte-parole France, on peut le dire comme ça, la porte-parole France du mouvement Black Lives Matter, et qui est dans ce libéralisme de gauche, par la défense des minorités, et qui a posé récemment avec la célèbre marque Louboutin. Donc on voit en résumé que le libéralisme de gauche, voulant certes bien faire, nourrit le libéralisme de droite. Mais quid de la gauche qui se bat sur les enjeux économiques? Ce que l'on présente comme de nouveaux mouvements sociaux, progressistes, de gauche, ne font finalement que légitimer ce libéralisme néo-capitaliste sans jamais remettre en cause les enjeux. Pour reprendre, là je vais reprendre les fondements marxistes de lutte des classes.
Alors, c'est aussi des thèmes extrêmement importants et je voudrais vous faire deux remarques. La première, c'est qu'on a cru effectivement que c'était fini la lutte des classes au sens traditionnel, si je peux dire, c'est-à-dire la capacité de mobilisation de personnes et de groupes à partir des rapports de travail, à partir de l'emploi, à partir de l'entreprise. Bon. Il se passe deux choses extrêmement intéressantes et très différentes l'une de l'autre. Premièrement, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Californie, et pas seulement, vous apercevez qu'il y a une sorte de renaissance d'un certain syndicalisme. Y compris, vous avez vu peut-être que chez Amazon, ça a tangué, et qu'il y a comme ça des moments où des gens veulent reconstruire de l'action syndicale. Bon. Donc, ça n'est pas fini. Et puis, deuxièmement, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Naomi Klein qui s'appelle « No Logo ». C'est un livre qui date d'une vingtaine d'années, mais qui m'avait passionné. Alors, en gros, qu'est-ce que montre cette journaliste? Elle dit, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dissocié complètement la production et le commerce. Elles fonctionnent en vendant des marques. Si vous achetez une paire de chaussures Nike, si vous allez boire un café chez Starbucks, etc., vous payez la marque. Vous ne savez pas trop comment sont produits les chaussures ou le café que vous allez consommer. Et dans certains cas, la marque vend très cher éventuellement ce qu'elle fabrique, qui est fabriqué par d'autres qu'elle-même, dans des pays genre Pakistan, Bangladesh, etc., ou aux Philippines, enfin des pays très pauvres, où la main-d'œuvre est plus que surexploitée. Autrement dit, la paire de chaussures Nike que vous allez acheter 200 $, elle aura peut-être, du point de vue de la rémunération de ceux qui ont travaillé dans les usines dans un pays lointain, elle aura peut-être coûté, en termes de fabrication, peut-être même pas 1 $ ou 2 $. Oui, c'est disproportionné. Mais le rapport de classe, il est déstructuré. C'est-à-dire que d'un côté, on s'enrichit, on fait du commerce, et ça plaît, on a trouvé des marchés. Et d'un autre côté, il y a, oui, un rapport d'exploitation, de domination, mais on s'en fiche pas mal parce que c'est à l'autre bout du monde et ça se joue entre des ouvriers et des ouvrières surexploités, hyper surexploités, et des patrons qui sont juste des, pour vous, entreprises à marque, qui sont juste des fournisseurs. Donc, une sorte de décomposition, mais pas de disparition, du rapport capitaliste. Donc, pour ces deux raisons, si je regarde les choses globalement, avec les exemples que donne Naomi Klein, c'est vraiment un livre intéressant. Et d'un autre côté, si je regarde ce qui renaît ici ou là, je pense qu'on n'en a pas fini avec ce thème. Mais qu'aujourd'hui, les thèmes qui sont au cœur des mobilisations que je crois, moi, les plus porteuses d'avenir, sont des thèmes qui sont d'une autre nature. Et donc, un des grands problèmes pour l'avenir, ça sera non pas comment faire en sorte que les nouveaux thèmes l'emportent complètement, mais comment faire en sorte que les nouveaux thèmes soient articulés à ces questions que vous avez appelées de lutte des classes ou qu'on peut appeler de travail, de rapport de domination, etc. Mais il y aura une particularité nouvelle. Jusqu'à il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, le cœur de la conflictualité et le sens des choses étaient donnés par la lutte des classes. Cette lutte-là dont vous parlez. Je pense qu'aujourd'hui, ça en fait partie, mais ce n'est pas le sens auquel tout le monde va se rattraper. Si vous êtes militant, écologiste, féministe, etc., si vous êtes intelligent, vous direz « oui, je souhaite que mon action puisse s'articuler à celle des gens qui travaillent en usine ou ce genre de choses, bien sûr, mais vous ne direz pas le sens de mon action est surdéterminé par cette lutte des classes qui se joue dans les usines, machin. » Vous voyez, c'est ça la différence avec l'époque précédente.
À travers ma question précédente, je ne veux pas hiérarchiser les combats. Néanmoins, pour parler trivialement, comme dirait l'autre, les personnes reconnaîtront, les rapports de lutte des classes ne sont plus des enjeux, des sujets, disons, à la mode. C'est le sentiment collectif, à l'inverse de ces mouvements, nouveaux mouvements sociaux, de ces mouvements qu'on trouve dans le wokisme, qui, eux, sont les mouvements portés, revendiqués aujourd'hui, en 2021-2022.
Alors, bon, je pense qu'il y a des entreprises très différentes. Moi, je ne connais pas le Boutin comme réalité de travail, comment on fabrique les chaussures, le Boutin. Est-ce que les patrons sont d'horribles esclavagistes qui font travailler ou est-ce qu'au contraire, ce sont des gens qui ont une politique sociale très ouverte? Je ne le sais pas. Donc, je
Mais
me garderai bien
ils
de.
sont peut-être très bons en termes de rapport avec
Oui.
leurs travailleurs, mais ce sont des marques qui sont porteuses du capitalisme. Enfin, on peut citer d'autres marques qui sont peut-être
Alors, comme
critiquables
vous voulez.
par rapport à leurs travailleurs, mais elles sont quand même des représentantes et des symboles de ce capitalisme-là.
Alors, moi, ce que je pense, hein, sur ces choses-là, c'est que les réalités des revendications syndicales ou ouvrières ou du travail ne sont plus le cœur de la vie collective. C'est ce que je vous disais il y a un instant. C'est là. Bon. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est secondaire, qu'il ne faut pas s'y intéresser, etc. Il faut s'y intéresser. Et donc moi, si j'étais porte-parole d'un de ces nouveaux mouvements culturels, je ferais très attention, et je pense que la personne dont vous parlez fait très attention, avec qui je m'acoquine. Si demain, vous lui dire, écoutez, vous êtes acoquiné avec... Regardez comment on travaille dans les ateliers de chaussures de Louboutin, regardez à quel point c'est lamentable. C'est une chose. Mais si on lui dit, si Monsieur Leboutin peut lui dire, écoutez, vous avez raison d'être avec nous, parce que regardez comment nous respectons nos salariés, et regardons, nous ne nous exploitons pas de la main-d'œuvre au bout du monde, et il y a la participation aux bénéfices. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise est bien plus soucieuse, si elle est sur un marché, évidemment, est bien plus soucieuse
Son image.
de sa position sur le marché que de l'image sociale qu'elle peut donner. Mais si elle donne une mauvaise image sociale, c'est une catastrophe. Et vous savez, je vous ai parlé du livre de Naomi Klein. Elle décrit, c'est très intéressant, elle décrit des mobilisations un peu partout aux États-Unis, dans des universités, dans des couches moyennes, chez les couches moyennes et autres, de gens qui disent, ben oui, c'est inacceptable que telle marque engrange de tels profits, en réalité, sur le dos de personnes qui vivent à l'autre bout du monde. Et c'est pourquoi c'est important? Parce que si moi j'achète, ou bien Nike, je ne veux pas me fixer sur une marque particulière, si moi j'achète des vêtements X, parce que je trouve que c'est bien, parce que c'est ce qui me permet de montrer que je suis dans le coup, etc. Si j'achète ces vêtements X et qu'on me dit, mais regarde, comment ils sont produits ces vêtements X, c'est des enfants de 8 ans qui travaillent 14 heures par jour et qui sont payés 1 dollar par jour. Et c'est avec ça que tu as pu acheter tes vêtements? Eh bien, si je réfléchis un tout petit peu, je dirais, bah oui, bien sûr, je vais arrêter d'acheter ces vêtements. Vous voyez, et je vais peut-être me mobiliser, et je vais même faire des actions pour protester. Bon. Et donc, la difficulté aujourd'hui, je crois, hein, c'est de penser l'articulation du dedans et du dehors. C'est ça qui me semble très, très important. Mais pour compliquer le raisonnement que vous suivez, ces problèmes généraux de société, ça pénètre aussi dans certaines entreprises. Vous avez des entreprises qui font très très attention à ne pas apparaître comme polluantes, à ne pas apparaître comme injustes entre s'il s'agit des femmes et par rapport aux hommes, de leur salaire, qui font très très attention. C'est vrai qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas en France, mais aux États-Unis, la législation oblige à ce qu'on produise, à ce que les entreprises produisent des statistiques et à ce que ces statistiques montrent qu'elles font des progrès en matière ethnique, pour ne pas le dire autrement. Ou racial, si vous préférez. Mais c'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a des entreprises qui s'y conforment, il y en a qui essaient de contourner, il y en a qui. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, la question, c'est que les problèmes du dehors, les injustices, les discriminations, sont aussi vécus comme des problèmes intérieurs. Mais ce n'est pas les problèmes habituels dont s'occupent les syndicats. Les syndicats, ils savent négocier beaucoup de choses. Mais ce n'est pas facile pour des syndicats de dire, nous, on veut faire de la discrimination positive dans l'entreprise. Ce n'est pas tout à fait la culture ouvrière ou la culture syndicale, même s'il y en a qui font des efforts. Donc, pour vous répondre, je crois qu'il est important de marquer que les problèmes ne sont pas identiques, qu'il y a des différences, mais que le rôle, et c'est peut-être d'abord le rôle des politiques et des intellectuels, c'est de penser les éventuelles articulations, pas la confusion, pas la fusion, hein, pas la dissolution, mais une certaine articulation. Démobilisation sur ces enjeux. Or, c'est ce que j'entends, moi, un petit peu quand j'entends dire il faut une gauche à la fois sociale, écologiste, etc. Mais il y a un petit peu de cette idée-là dans l'air, un petit peu. Après, il faut voir comment ça se traduit concrètement. Mais c'est la compréhension que tout ça, c'est pas simplement il faut que la classe ouvrière prenne le pouvoir. Parce que, excusez-moi de faire un peu trop d'histoire peut-être, mais n'oubliez pas ce qu'était le discours du mouvement ouvrier. Ça a pris quand même, c'était quand même, alors dans les formes extrêmes, la dictature du prolétariat. C'était quand même, bon, il y avait le personnage important, c'était l'ouvrier, c'était le prolétaire. Il y a une phrase que j'adore de Marx, je crois que c'est Marx et Engels, ou Marx tout seul, je ne sais plus. C'est en se libérant, je crois que c'est je crois que c'est dans le manifeste, hein, donc, du Parti communiste, il y a une phrase qui dit, en se libérant de ses chaînes, le prolétariat libérera l'humanité tout entière. C'est superbe comme idée. Et ça veut dire priorité absolue au combat ouvrier. Donc, voilà, je crois qu'on ne peut plus en être là. On ne peut plus en être là, mais il faut bien se rappeler ce que ça a été.
Mais ça, alors, par rapport à cette phrase, c'est justement la vision du primat, enfin du postulat selon lequel la condition économique va déterminer le découlement et l'organisation sociale et la place sociale de chaque individu. Mais est-ce que justement, pour revenir à la question que je vous posais justement quand je vous parlais d'alliance, quand je parlais de mouvement du libéralisme de droite, j'aurais pu dire, j'aurais pu parler de dominant au sens économique du terme. Et ça va avec ce que vous venez de dire il y a quelques instants, parce que est-ce que finalement, les dominants, donc j'entends par là le système capitalisme, le libéralisme économique, est-ce qu'ils n'utilisent pas et ne se servent pas de cette caution du libéralisme de gauche pour se perpétuer? Parce que, pour revenir à ce que je disais sur le fait qu'aujourd'hui, le terme de lutte des classes est devenu ringard, mais devenu ringard en termes dans l'esprit des gens, dans l'esprit des personnes, dans les mouvements, dans les actions à mener. Mais parce que il y a une émergence de ces nouveaux mouvements sociaux, de ces mouvements qu'on trouve dans le wokisme, et que le capitalisme arrive à s'accaparer et à faire alliance et à mettre en commun pour justement faire perdurer son système.
Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que le capitalisme perdure, évidemment. Mais je pense que le capitalisme se transforme considérablement et que il s'adapte à des évolutions générales. Et donc, je pense que le capitalisme aujourd'hui, dans certains domaines, c'est peut-être pas vrai dans tous les domaines, mais que le capitalisme dans certains domaines a su transformer les modes d'organisation du travail. Après tout, vous savez, il y a encore 30 ans, le taylorisme était roi. Les grandes forteresses ouvrières, il y en avait encore. Tout ça, c'est fini. Bon, je ne dis pas du tout qu'il n'y a plus du tout de taylorisme. Si, il y en a encore. Et il y a encore des cadences, et il y a encore du travail quasiment à la chaîne, même si on ne l'appelle plus comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a quand même eu d'énormes évolutions, et le capitalisme a mis en place des nouvelles formes de management, d'organisation du travail, et les choses ont beaucoup évolué. Ensuite, mais le capitalisme, moi je vais vous dire, quand j'étais étudiant, le capitalisme, quand il fallait le définir, mes profs me disaient, le capitalisme, c'est des rapports de production qui se jouent dans l'usine et dans le travail, et c'est l'exploitation ouvrière. Et enfin, j'avais beaucoup d'intérêt à lire Marx et à essayer de comprendre ce que c'était que la plus-value, le prélèvement de la plus-value et des choses comme ça. C'était ça le capitalisme. Je pense qu'aujourd'hui, le capitalisme, c'est encore ça, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est pas simplement l'exploitation brutale des travailleurs. Ça l'est, pour ça que j'ai évoqué ces pays pauvres où ça se passe comme ça, mais c'est aussi le détour par la consommation. Le capitalisme, à la naissance, la consommation, ce n'était pas un problème important pour lui. La consommation, on cite souvent Ford, c'est-à-dire Ford qui s'aperçoit qu'il est intelligent de faire en sorte que ses ouvriers puissent acheter des voitures plus tard, enfin, que les ouvriers en général puissent acheter des voitures. Et donc l'idée, c'est le Fordisme, c'est-à-dire que le capitalisme va se perpétuer par un détour de consommation. Bon, ce n'était pas le cas au départ. Et donc oui, le capitalisme, c'est la consommation, c'est le marché, c'est la séduction c'est la manipulation des besoins, c'est la publicité. Regardez les budgets publicitaires, à quel point c'est devenu gigantesque. Bon, et donc ça prend d'autres formes. et la contestation du capitalisme, donc là j'arrive à votre point, la contestation du capitalisme, il faut la regarder au dehors et au dedans, et puis, et pas simplement au dedans des entreprises. C'est ça le problème. Alors, moi, vous comprenez, comme je n'aime pas utiliser le mot wokisme, je ne vais pas parler vos mots à vous, mais je comprends, je crois ce que vous dites. Je pense que c'est malsain, il est malsain d'opposer l'univers du travail, de l'exploitation, de la domination, des mauvais salaires et toutes ces choses-là, de l'opposer à l'univers de la lutte sur l'environnement, l'égalité homme-femme, etc. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il faut reconnaître la différence de ces enjeux, ce n'est pas la même chose, et se demander ensuite comment un discours plus politique peut essayer de les fédérer, de les rapprocher, de faire en sorte que ça ne se détruise pas. Et moi, je trouve qu'on le voit quand même assez bien avec le féminisme. Moi, quand j'entends dire qu'il faut que les femmes touchent les mêmes salaires que les hommes, c'est à la fois un thème culturel, général, et aussi un problème pour les entreprises. Donc, vous voyez, c'est le dedans et le dehors. Et dans une entreprise, on fera des progrès parce que du dehors, on aura été sous pression, et que les femmes à l'intérieur, oui.
Parlons quelques instants du féminisme, des différences de salaire, justement. Est-ce que, par exemple, vous ne trouvez pas que le capitalisme réussit à s'accaparer des enjeux sociétaux, de lutte que, historiquement, on peut trouver dans les mouvements de gauche pour perdurer? Regardez les discours que font les banques en termes de recrutement. Les banques, qui sont l'entre-même du système capitaliste. Ces mêmes banques qui, sur leur site, sur leur page de recrutement, inscrivent des scorings de leur établissement, concernant leur établissement, sur les enjeux de rapport salariaux hommes-femmes. On fait en réalité une cible entre les hommes et les femmes au détriment d'un autre enjeu et dont on ne parle pas finalement. Cet enjeu, c'est la confrontation des rapports salariaux entre les riches et les pauvres.
Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les problèmes. La lutte pour l'égalité hommes-femmes, ce n'est pas simplement une question économique. C'est aussi une question économique, mais pas seulement. C'est une question de reconnaissance. Si les femmes sont égales des hommes, elles ont un autre rapport au travail, elles ont un autre rapport à l'emploi. Elles sont respectées, elles sont reconnues, elles sont égales. C'est quand même pas la même chose que si on vous dit que comme tu es une femme, tu gagneras 20% de moins. Bon, et quand vous rentrez à la maison, c'est quand même pas mal de pouvoir dire à son mari, si vous êtes marié, je gagne comme toi, compte tenu de mes diplômes, de ma profession, etc. Donc, il y a quand même une question de reconnaissance, si vous voulez, qui est très importante, premièrement. Deuxièmement, je pense que là où nous divergeons peut-être, moi je ne crois pas que l'objectif des luttes sur l'environnement, des luttes féministes, des luttes antiracistes, des luttes sur tout ce qui touche au corps, à la subjectivité, etc. Je ne crois pas, des luttes éthiques, si vous voulez, je ne crois pas que l'objectif soit directement ou fondamentalement anticapitaliste. Voilà, au sens que vous avez utilisé. C'est pas leur... Bon, par contre, si moi... je vais parler de questions d'environnement. Si je vous dis, voilà, c'est pour s'enrichir que les usines machin polluent en fabriquant, en balance du CO2 dans l'atmosphère, etc. Je ne vais pas les attaquer parce qu'elles... si je les attaque, si je les critique en tant qu'environnementaliste, je ne dirais pas ces salauds-là exploitent les ouvriers. Je dirais ces salauds-là, pour faire plus de profit, balancent des cochonneries dans l'atmosphère. Et je dirais peut-être même en allant voir, et je m'apercevrais peut-être qu'ils payent bien leurs ouvriers. Et je m'apercevrai peut-être même que leurs ouvriers sont bien contents de travailler pour cette entreprise et défendront l'emploi contre l'environnement. C'est des choses qu'on a souvent vues, d'une manière ou d'une autre. Je le dis de façon un peu caricaturale, bien sûr. Et donc, mon combat ne sera pas anticapitaliste de la même manière que le combat anticapitaliste de ces ouvriers dans ces usines qui, eux, veulent des hausses de salaire, de la sécurité de l'emploi, des choses respectables, mais d'une autre nature. Donc, le sens de mon action ne sera pas le même. Alors, la question, moi, qui m'intéressera, vue du dehors et avec une certaine distance, c'est comment faire en sorte qu'il puisse y avoir une capacité au moins de se comprendre entre ces ouvriers et ces capitalistes qui sont finalement peut-être d'accord entre eux pour polluer parce que tout le monde y trouve son compte de ce côté-là, et moi qui dis que c'est une catastrophe pour la planète, pour l'humanité, pour l'environnement. Vous voyez, mais moi, en tant que... Je serais peut-être, en tant que militant sur l'environnement, anticapitaliste, mais le capitalisme, je le définirais comme cette capacité d'un certain nombre d'entreprises à polluer, et non pas du tout cette capacité d'un certain nombre d'entreprises à exploiter la classe ouvrière.
Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il n'est pas compliqué, du coup, de ne pas entrer dans une opposition des revendications à partir du moment où, justement, elles n'ont pas une même convergence d'intérêts? J'entends par là l'exemple que vous avez donné, justement, sur l'intérêt, par exemple, des travailleurs dans des entreprises qui polluent à partir du moment où les travailleurs y trouvent un bénéfice économique, une rémunération importante. Mais un combat à côté de ça d'écologistes qui vont se plaindre justement de cette entreprise du fait qu'elle pollue. Comment est-il possible d'arriver à une union de ces revendications à partir du moment où leur finalité, leur objectif final n'est pas le même?
Alors, je pense que oui, jusqu'à un certain point. Et ça, c'est la politique plus que la contestation directe qui peut changer les choses. C'est lorsque des acteurs politiques ou quasi-politiques se posent la question, que vous formulez comme ça, c'est lorsqu'ils se posent cette question qu'ils sont capables, et qu'on voit s'ils sont capables du monde d'inventer des programmes ou des projets politiques qui traiteraient de la question telle que vous la formulez. Voilà. Et alors, moi, j'ai évoqué la CFDT, j'avais été intéressé, ils avaient, en liaison avec une soixantaine d'associations, dont certaines concernées par des problèmes d'environnement, ils avaient justement essayé de proposer une plateforme mobilisatrice sur tout ça, à la fois. Mais ça marche ou ça marche pas, ça prend ou ça prend pas. Ça dépend aussi de la conjoncture, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas facile. Et donc, regardez, je prends les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils n'étaient pas du tout intéressés par ce qui se passait dans les entreprises. Or, c'était des gens qui disaient tous, on ne gagne pas assez notre vie. Ben, ils n'en avaient pas fait une lutte anticapitaliste. Ils en avaient fait une pression sur l'État. Donc, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple de penser ces questions d'un seul moment, d'un seul mouvement. Et c'est aussi pour ça que la politique va mal. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas de projet politique qui sérieusement, en touchant les sensibilités des uns et des autres, arrive à faire comprendre, je vais simplifier à l'extrême, qu'on ne peut pas se mobiliser sur l'environnement si on ne prend pas en compte les problèmes sociaux des gens, et qu'on ne peut pas se mobiliser sur les problèmes sociaux des gens en faisant comme s'il n'y avait pas de risque climatique ou problème d'injustice entre les hommes et les femmes. Vous voyez, le problème, c'est comment prendre tout ça en charge, et ça, c'est la politique qui viendra. À mon avis, ce n'est pas encore la politique actuelle, mais c'est la politique qui viendra, qui de plus en plus essaiera de penser comme ça ces questions.
C'est très clair. Christophe, est-ce que tu as une question, quelque chose à ajouter?
Alors, en guise de bilan, pour conclure, quel portrait dressez-vous à l'heure actuelle en France des nouveaux mouvements sociaux? Lesquels arrivent à émerger, lesquels perdureront selon vous?
Alors, j'ai consacré à peu près le tiers du livre dont je vous parlais tout à l'heure à cette question.
Ce sera l'occasion d'amener ce sujet.
Bon, donc c'est vraiment une question qui me tracasse beaucoup. En gros, si vous voulez, on est aujourd'hui en France dans un pays où ces nouveaux mouvements sociaux sont très faibles par rapport à ce qu'on pourrait espérer ou même ce qu'on peut voir aux États-Unis. Le féminisme français est faible. Il est intéressant et il est très important de voir qu'il se réveille, et c'est très positif, avec des histoires de violence, de viol et toutes ces questions si, si importantes. Mais, comment dirais-je, c'est le premier pas de dénoncer comme ça ces violences. Le deuxième pas, c'est de construire d'autres images de la société et des rapports qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, ou même les orientations sexuelles des uns des autres, toutes ces questions-là. Et je trouve que le féminisme n'est pas très fort. Tout ce qui touche au climat, à l'environnement, n'est pas très fort non plus. On n'a pas d'énormes mobilisations sur ces enjeux. Et donc ma réponse, si vous voulez, c'est que premièrement, les nouveaux mouvements féministes, c'est ceux-là qui sont les plus visibles quand même, environnement, sont faibles.
Bon. D'accord.
Bon. Par rapport, moi j'ai connu des grosses manifestations anti-nucléaires, par exemple, énormes, contre des centrales nucléaires, énormes. Bon, premièrement. Et deuxièmement, les mouvements les plus visibles sont parfois inquiétants. Soit qu'ils sont dans l'horizontalité et dans l'incapacité de se structurer, de créer les conditions d'un débat, d'accepter ou de promouvoir le débat, c'est plutôt le côté gilet jaune, soit, alors là c'est beaucoup plus inquiétant encore, qui sont dans le particularisme spécial de ces, dans un particularisme spécial qui est le refus de la science. Et là, je pense au mouvement anti-vax.
D'accord.
C'est-à-dire, comprenez, il y a encore 20, 30 ou 40 ans, vous aviez la critique de la science. Je vais donner un exemple. Vous avez eu, quand il y a eu le sida, vous avez eu, il y a un film 120 pulsations par minute qui est remarquable. C'est peut-être un peu, mais moi je l'ai trouvé très intéressant. Les gens qui se mobilisent ne disent pas on est contre la recherche médicale. Hein, ils disent on veut y accéder et plus vite que ça. Ah, c'est quand même, bon. Aujourd'hui, les anti-vax, ils disent on ne croit pas. On ne croit pas à ce que nous raconte la science, la médecine. Donc c'est la, bon, c'est ça qui me semble très inquiétant. Et donc, entre des mouvements horizontaux qui n'arrivent pas à se structurer ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se structurer, et des mouvements qui deviennent des anti-mouvements en réalité, pour le dire comme ça, je suis assez inquiet. Et donc, je pense que nous sommes loin d'avoir des mouvements puissants. En 68, il y a quand même eu, puisque vous posiez la question tout à l'heure de la convergence finalement des mouvements, vous avez eu quand même quelque chose d'unique en France, le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, la main dans la main. Les étudiants ont tordu le bras aux responsables syndicaux, à la CGT, au Parti communiste, qui n'étaient pas tellement contents. Mais quand même, vous aviez en même temps le mouvement de la vieille société et le mouvement de la nouvelle société qui... Bon, et depuis, on n'a jamais revécu ça. On n'a jamais revécu ça.
Bon, bah, écoutez, merci pour...
merci beaucoup.
Merci pour l'ensemble de ces réponses. Et puis... écoutez, juste une dernière question qui prendra quelques secondes. Est-ce que vous avez une personne, un collègue, une connaissance, quelqu'un à nous conseiller et un sujet que vous aimeriez nous voir traiter ? Ça peut être donc un sujet de sociologie, d'actualité politique, d'histoire, de philosophie, peu importe, dites-nous. Nous sommes tous oui.
Oh, vous prenez quand même au déboté, là.
Au passage, pendant que vous réfléchissez, le livre dont vous avez parlé de Naomi Klein, je ne l'ai pas lu. En revanche, je suis en train de lire La stratégie du choc qu'elle a écrit, qui est également très, très intéressant.
Ah bon, bon
ouais, bah, oh, oui.
Je ne l'ai pas lu, par contre.
Donc, je le conseille celui-ci, oui.
Bon. Écoutez, moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresserait, ce n'est pas vraiment tel ou tel problème. C'est que vous introduisiez davantage, je ne sais pas ce que vous avez fait avant, donc ce n'est pas une critique, hein, dans la vie intellectuelle, davantage de perspectives internationales et globales. Que vous nous aidiez à sortir du côté franchouillard de nos réflexions.
Bah, écoutez, alors, ça c'est prévu parce qu'on a prochainement des entretiens avec des spécialistes prévus sur le sujet de la guerre économique, alors là, qui prennent un côté économique mais international, et qui va aborder notamment cette fausse amitié existante entre la France et les États-Unis. Sur justement les différents clous et réglementations qui peuvent exister et qui mettent en avant justement une espèce de guerre économique qui existe entre ces deux pays.
Très bien. Voilà, tout ce qui ouvre à l'international, et c'est pas la même chose que le global. Global, ça veut dire qu'il y a des logiques planétaires. Les problèmes sont, voilà. International, ça veut dire ce qui se passe entre la France et les États-Unis, ça débouche sur des comparaisons. Voilà, plus vous ouvrez. Il y avait un sociologue allemand qui est mort il y a 5-6 ans que j'aimais beaucoup, qui était un très bon ami, qui s'appelait Ulrich Beck. Et il dénonçait ce qu'il appelait, j'avais adoré la formule, le nationalisme méthodologique. C'est-à-dire le fait que dans les sciences sociales, économiques et autres, trop souvent, la méthode de travail repose sur l'enfermement dans le cadre de l'État-nation.
Ouais.
Voilà. Et donc, ça, voilà. Donc ce serait plutôt, il y a le vœu que vous circuliez entre, évidemment, on est en France, mais entre le point de vue des problèmes vus depuis la France et la capacité de les voir aussi de façon globale et internationale. Ça, c'est pour moi un plus, vraiment. Vous voyez, on a parlé du wokisme, allez voir un peu ce qu'il en est ailleurs, vous verrez que c'est très différent. Et puis, alors, si j'ai un vœu à faire, arrêtez d'utiliser ce mot, qui est vraiment... c'est le mot de nos adversaires. C'est le mot de nos adversaires. Ça permet de ne pas parler des vrais problèmes. Et après, on va vous dire est-ce que tu es wokiste ou pas.
Ouais. Ok, bon, bah, écoutez, bah, merci beaucoup pour.
Merci beaucoup pour en tout cas. Ouais.
Intéressant.
C'est un plaisir.
Et puis à une prochaine. À bientôt.
Comme vous voudrez. Au revoir.